Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, moi c'est Stéphane Bern. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. Au programme, chaque après-midi, trois personnages au destin saisissant. Trois personnages qu'a priori rien ne relie. Le tout raconté par deux Olibrius qu'a priori tout oppose également. Votre serviteur est Mathieu Noël. Bonjour Mathieu.
Bonjour Stéphane. C'est vrai que sur le papier, nous sommes assez dissemblables. Vous avez grandi en allant certainement à la messe le dimanche matin. Moi, je regardais Turbo sur M6. Vous découpiez les photos de vos stars préférées, des archiducs et des comtesses dans Point de vue pendant que je faisais des pogos dans la fosse des concerts d'NTM. Deux approches radicalement différentes de la vie et pourtant, une passion commune, l'histoire. L'histoire, cette saga sans scénariste, mais à laquelle aucune série Netflix n'arrive à la cheville, tour à tour drôle, palpitante et tragique. L'histoire, c'est bien sûr des guerres, des traités, des invasions, des putschs, mais c'est aussi, Stéphane, des anecdotes croustillantes, des détails cocasses. Par exemple, combien de souverains se sont-ils couverts de gloire avant de connaître une mort idiote?
Il a fait bip bip, nous on a fait meuf, l'arrêt l'a piqué, il a coulé comme un plomb.
Et oui Stéphane, c'est le problème de Charles Le Chauve, il aimait trop les sports nautiques. Aujourd'hui, de l'action, il va y en avoir.
Et oui Mathieu, aujourd'hui, à l'occasion ce soir du retour de la nouvelle saison de Koh-Lanta sur TF1, nous allons évoquer les aventuriers de l'histoire, les aventuriers d'avant Koh-Lanta.
Parce qu'il y a des aventuriers avant Koh-Lanta, j'ai toujours pensé que Denis Brognard était le premier.
Eh bien vous allez découvrir, cher Mathieu, que non. Si je vous dis par exemple Marco Polo,
ah oui.
Ella Maillard,
ah oui.
Et plus proche de nous, Mike Horn.
Effectivement, même si aucun d'entre eux n'a à ma connaissance remporté l'épreuve des poteaux, on peut quand même leur accorder le titre d'aventurier.
Et avec nous également aujourd'hui, Mathieu, nos francs-tireurs de l'histoire, David Castello-Lopez, qui nous racontera l'origine d'un autre jeu qui vous a peut-être rendu fou cet été, le Trivial Poursuite.
Oh oui.
Notre diseuse de bonne aventure historique, Clémentine Portier-Kaltenbach, nous entraîne notamment dans la salle d'accouchement de la reine Victoria. Eh oui, il est né le huitième enfant.
Bel organe.
Vous parlez de Victoria.
De votre voix.
Et Olivier Pouls, notre aventurier des fourneaux. Ça va être chaud.
Ça va être chaud cacao avec Olivier Pouls. Et comme c'est une spéciale Koh-Lanta, à la fin de l'émission, Denis Brognard viendra effectivement nous départager pour savoir qui reste en deuxième semaine et qui, au contraire, devra quitter l'aventure.
Mathieu, prenez votre sac. Quittez le studio, ouais. Et rentrez chez vous.
Ah non, impossible, moi je suis en CDI. Accueillons plutôt un journaliste en CDD pour les origines.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour David Castello-Lopez.
Bonjour.
Chaque après-midi avec vous, on remonte le temps aux origines d'une pratique, d'un objet, d'un phénomène. Et aujourd'hui, c'est les trois à la fois parce que vous allez nous parler du Trivial Poursuite.
Oui, alors le Trivial Poursuite, vous connaissez tous le jeu. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle Trivial Poursuite?
Alors non.
Eh oui. Et parce que trivia en anglais, ça veut dire information sans importance, anecdotique. Et traditionnellement, Trivia Game, c'est un jeu où il faut répondre à des questions. Mais c'est aussi un jeu de mots, puisque Trivial Poursuite, en anglais, ça veut dire quête futile. Ce qui qualifie parfaitement cette bataille de zgeg cérébral qu'est le Trivial Poursuite. Bon, si vous permettez, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais creuser encore un petit peu dans l'étymologie, parce que j'aime bien ça. D'abord, d'accord, trivia en anglais, ça veut dire information futile. Mais pourquoi ça veut dire ça? Alors déjà, trivia, ça vient du mot latin trivio. Et oui, dans cette chronique, à chaque fois que je dirai un mot en latin, vous entendrez une attaque de Carmina Burana qui soulignera la profondeur effrayante de mon savoir. Trivium donc, qui signifie au sens propre en latin, carrefour à trois voies. Et par extension, endroit où il y a plein de gens qui passent. Trivium, ça a donné trivial. Trivial, c'est-à-dire digne d'un endroit où il y a plein de gens qui passent. C'est-à-dire un endroit connu de tous, c'est-à-dire banal, sans importance, comme les questions du Trivial Poursuite. Mais il y a une autre théorie sur les origines du mot trivia, comme mot signifiant information sans importance. Et cette théorie, c'est la suivante. Trivium en latin, ça désignait aussi les trois matières par lesquelles toute personne dans l'Antiquité devait entamer son apprentissage, à savoir la grammaire, la dialectique et la rhétorique. Et quand on savait bien tout ça, eh bien on pouvait passer aux quatre autres matières autrement plus cool et compliquées qui constituaient le quadrivium. Et ces matières étaient bien sûr...
les maths,
l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. Et donc, peut-être que trivial, en fait, ça veut dire qui concerne des matières un petit peu inférieures du savoir, donc un savoir un peu superficiel, comme celui dont on a besoin pour le Trivial Poursuite. Voilà, j'ai décidé de mettre également ce son quand je termine une démonstration particulièrement réussie.
Et ça marche.
Mais alors maintenant, d'où ça vient le jeu Trivial Poursuite? Eh bien, C'est un jeu qui a été inventé par deux journalistes. Et oui, les journalistes, ils n'ont quand même pas inventé grand-chose, mais ça, oui. Ces deux journalistes, ils sont canadiens et ils s'appelaient respectivement Chris Haney, responsable de la photo à la Gazette de Montréal, et Scott Abbott, qui couvrait le sport dans un autre journal. Ils étaient amis et un jour, plus précisément le samedi 15 décembre 1979, ils se faisaient une petite soirée Scrabble, un samedi soir. À Montréal, passé 21h, il n'y a plus grand-chose à faire. Et là, ils en ont eu un peu marre et ils se sont dit « Viens, on invente notre propre jeu ». Et ce soir-là, en quelques heures, ils ont jeté les bases du Trivial Pursuit. Mais bon, il y a plein de gens qui ont des idées de jeu et qui n'en font rien. Eux, ils ont réussi à lever 40 000 dollars et pendant des mois, ils ont juste écrit des questions, parce qu'il en fallait 6 000 quand même. Ils ont embauché un designer de 18 ans pour faire le design qu'ils ont payé avec 5 actions de leur société. Et finalement, le jeu est sorti en 1981 et ça a cartonné. Et ça cartonne toujours. Ça cartonne pourquoi ? Eh bien, parce que ça permet aux gens de se la péter dans un cadre acceptable.
Ben oui,
imaginez par exemple que vous sachiez quelle est la capitale de la Tanzanie et vous êtes dans une soirée. Eh bien, vous ne pouvez pas aller voir les gens et leur dire « Bonjour mademoiselle, je sais quelle est la capitale de la Tanzanie ». Eh bien, le Trivial Pursuit, ça permet de faire ça, d'avoir tout simplement une occasion de montrer qu'on sait des trucs. C'est quoi la capitale de la Tanzanie, Stéphane ? Il y a un piège, bien sûr.
Oui, il y a un piège.
C'est une ville à un nom ridicule, je crois, non ?
Oui. Ouais. Alors, on pense tous que c'est Dar es Salaam.
Non, c'est pas Dar es Salaam, c'est l'autre.
C'est Dodoma, la capitale de la Tanzanie. Ça fait partie de ces pays.
Un point, on pourra compter pour le quiz.
Ça fait partie de ces pays qui ont changé leur capitale et qui l'ont mis au milieu du pays.
Brasilia, par exemple.
Exactement.
Brasilia. Est-ce que Yamoussoukro, c'est la capitale de Côte d'Ivoire plutôt qu'Abidjan ?
C'est Yamoussoukro, je crois. C'est ça, c'est aussi une question piège comme Canberra et Sydney en Australie. On peut continuer comme ça.
Ankara et Istanbul.
Vous voyez que le Trivial Pursuit pourrait télé sa culture.
Il y a
historiquement vôtre. Pour se permettre, comme c'est la thématique de l'émission, on peut montrer qui est le plus malin, le plus cultivé. Et vous savez, une question piège pour vous, qui a écrit certaines questions du Trivial Pursuit en France ? Je donne un indice, cette personne est de l'autre côté de la vitre du studio, en régie.
Clémentine Portier-Kaltenbeck.
Exactement. C'est elle qui l'autre jour a répondu dans une question de notre quiz, qui est en fait issue du Trivial Pursuit, qu'elle avait elle-même écrit. La boucle est bouclée. Merci beaucoup pour les origines du Trivial Pursuit, David Castello-Lopez.
Europe 1.
À présent, son nom à lui seul est synonyme d'aventure, de voyage, de danger.
N'exagérez pas, Stéphane, c'est vrai que cet été, j'ai fait une tyrolienne assez balèze, mais bon, devant moi, il y avait quand même une gamine de 7 ans, donc danger.
Non, mais je parle pas de vous, Mathieu. Parle évidemment de Marco Polo, le premier personnage dont nous allons dresser le portrait cet après-midi dans Historiquement Vôtre.
Je m'incline devant Marco.
Historiquement Vôtre. Le récit.
Vous parlez, Mathieu, d'un courageux marchand vénitien. Si aujourd'hui la mondialisation et le commerce international sont au cœur de nos échanges, sachez que c'était déjà le cas au XIIIe siècle, époque du célèbre Marco Polo. Le négociant a passé une partie de sa vie à bourlinguer en Asie, à la recherche de marchandises rares et précieuses. À l'époque, nombreux sont les marchands européens qui se déplacent et commercent à l'étranger. Mais si seul le nom de Marco Polo est passé à la postérité, c'est qu'il est aussi l'auteur d'un récit de voyage, le Livre des Merveilles, racontant son incroyable odyssée de Venise jusqu'à l'Empire mongol. Son périple dure si longtemps qu'en 1295, quand il revient dans sa ville natale, au bord de l'Adriatique, vêtu à la mode mongole et parlant vénitien avec un accent étranger, personne ne le reconnaît. Bon, ils sont tous morts sur deux. Pour célébrer son retour, Marco invite alors tous ses parents à un banquet durant lequel il prévoit une étonnante mise en scène. Arborant une tenue de voyage miteuse, il monte soudain sur une table pour sortir de ses poches une quantité prodigieuse de pierres précieuses, diamants, saphirs, rubis, améthystes.
On croirait une scène de film.
Oui, mais hélas, raconté par Giovanni Battista Ramuzio, un navigateur deux siècles après les faits, cette scène n'a peut-être jamais existé. Mais elle montre l'aura du personnage bien après sa mort, et à quel point les trésors accumulés lors de son périple ont fait fantasmer ses successeurs.
L'histoire retiendra, Stéphane, que je vous ai prêté mon stylo bic 4 couleurs ce matin. J'espère que ce sera noté par l'historien.
Je m'en souviendrai personnellement et je l'écrirai dans mes mémoires pour toujours. Mais revenons, si vous le voulez bien, aux origines de notre aventurier. Marco Polo voit le jour en 1254 à Venise. Son grand-père, son père et son oncle sont de riches négociants spécialisés dans le commerce avec l'Orient. Sa voie sera donc toute tracée.
À sa naissance, son père Niccolo, accompagné de son frère Matteo, sont déjà partis depuis plusieurs mois pour un long voyage d'affaires en Asie. Le garçon grandit dans l'attente du retour de ses héros qui enfin réapparaissent au bout de 15 longues années d'absence.
Et il n'y avait pas FaceTime à l'époque en plus.
Non, et puis voyez-vous, il n'y avait pas d'avion non plus. Donc ça mettait
beaucoup
plus longtemps.
Beaucoup de choses manquaient.
Oui, bon. Ils repartent presque immédiatement, emmenant cette fois le jeune Marco dans leur bagage. L'adolescent est ravi. L'apprentissage de son métier commence. Il part découvrir l'Orient mystérieux. Les trois aventuriers empruntent la route de la soie. Il s'agit d'un réseau de routes commerciales permettant les échanges entre Orient et Occident. D'abord par bateau, ils empruntent ensuite la voie terrestre à dos de cheval. La route est longue et semée d'embûches. Ils résistent aux embuscades de brigands locaux, traversent des déserts et des montagnes hostiles. Plusieurs fois, Marco Polo frôle la mort.
Je vous suis toujours Stéphane, mais je ne vous cache pas que j'ai un peu peur pour Marco.
Oui, mais le voyage est aussi source d'émerveillement pour le jeune Marco Polo. En Arménie, il aperçoit le mont Ararat, où se posa l'arche de Noé après le déluge. En Azerbaïdjan, il trouve une grande fontaine naturelle d'où sort un liquide semblable à l'huile. Non comestible, cette huile est utilisée pour soigner les maladies de peau.
Du Byakhtol. Marco Polo a découvert le Byakhtol, Stéphane ?
Non, il a découvert du pétrole. Une huile utilisée également pour allumer des lampes.
Ah oui, j'avais pas bon alors.
Enfin, après 3 ans et demi de voyage, les polos, c'est la famille.
Les polos. C'est comme ça que vous les appelez, vous êtes vraiment un intime.
La famille polo, quoi. Atteignent l'Empire mongol. Ils sont reçus par l'empereur, Kubilai Khan.
Qui leur dit salut les polos.
Ce souverain ouvert sur le monde accueille volontiers les étrangers dans son royaume. Sa richesse est fabuleuse. Son palais de Kambalik, l'ancienne ville de Pékin, est si grand qu'on peut en compter le nombre de chambres. Les toits et les murs sont couverts d'or et d'argent.
On dirait vraiment la description de notre villa de Paros. Hein,
mais vous rêvez. Justement. Venez, vous allez vous rendre compte par vous-même. Alors, bref, revenons à Marco Polo qui arrive à Kambalik, l'ancienne ville de Pékin. Pour la fête du Nouvel An, les courtisans de l'empereur lui offrent plus de 100 000 chevaux, chameaux, perles et joyaux. De quoi faire tourner la tête de Marco Polo. Le grand Khan, lui, est intrigué par ce jeune homme aimable, courageux, à l'esprit agile et capable de s'adapter à toutes les situations. Durant son périple, Marco a appris le tartaresque, le ouïghour, le persan et l'arabe. Il s'est aussi familiarisé aux us et coutumes de la région et s'est formé au tir à l'arc.
Et tu rajoutes les jeux apéro, on dirait une semaine all-inclusive au Club Med. Hein,
Marco Polo, écoutez-moi, entre au service de l'empereur. Il devient son messager et voyage pour lui aux quatre coins de l'Empire, de la Chine au Tibet, en passant par la Thaïlande ou encore la Birmanie. Durant ses expéditions, le jeune explorateur découvre ce qu'il estime être la ville la plus grande du monde, Kinsay. Comme à Venise, la cité est parsemée de canaux et de ponts. Marco Polo admire les rues pavées, les nombreux marchés de poissons ou de riz, sur lesquels il est possible de payer avec du papier monnaie. Un système différent de l'Europe, où l'on utilise uniquement des pièces en métal. Je cite l'historien Pierre Racine dans Marco Polo et ses voyages. Marco est d'abord un marchand qui fixe son attention sur ce qui se produit, s'achète et se vend. Pendant son périple, il s'est intéressé aux rubis et aux sels afghans. En Iran, la turquoise et l'exceptionnel artisanat l'ont fasciné. Dans les diverses provinces chinoises, il s'émerveille devant la soie, les bois précieux ou les épices, gingembre, poivre, sucre en abondance. Après 17 ans au service de l'empereur Marco Polo, son père et son oncle ont amassé un trésor considérable. Il est temps pour eux de rentrer à Venise. Le problème, c'est que Kubilai Khan, qui s'est pris d'affection pour eux et les couvre de présents, refuse de laisser partir le trio qui se retrouve comme piégé dans une prison dorée.
Europe 1.
En interrompant ainsi votre récit, Stéphane, vous nous laissez dans un état de frustration comparable à celui des éphémères compagnes de Marco Polo lorsqu'il leur disait, avant d'hisser la grand voile...
Avec moi, les histoires d'amour ne s'écrivent pas dans le temps. Ce sont des histoires courtes, compactes, passionnelles. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure.
Sacré Marco.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, 2 heures pour déguster l'histoire à la petite cuillère. Une cuillère en argent, forcément, puisque c'est Stéphane Bern qui nous raconte aujourd'hui le destin épique de Marco Polo. Stéphane, vous nous avez laissé alors que l'empereur mongol Kubilai Khan empêche Marco Polo, son père et son oncle, donc les Polos, de rentrer à Venise.
L'Italien rusé attend patiemment qu'une occasion se présente, ce qui ne tarde pas. Le grand Khan, qui a depuis longtemps accordé sa confiance aux Polos, les charge d'escorter hors de son empire une princesse mongole du nom de Kokachine.
C'est ma cousine.
Oui, Kokachine, non, non.
Pardon,
Stéphane. Non, vous confondez avec
oui.
Bécassine, je crois.
Oui, ça, oui, oui, c'est peut-être ça.
Peut-être que Marco Polo s'était noué d'amitié avec Kokachine. Hollywood a imaginé une idylle sentimentale entre l'aventurier et la belle princesse. On ne sait pas du tout ce qu'il en était dans la réalité, mais Marco Polo admirait beaucoup la beauté des femmes chinoises. Une fois Kokachine déposée en Perse, où elle doit se marier, les Polo filent vers Venise. Vous imaginez, Mathieu, ils étaient partis depuis 26 ans. Et ils rapportent dans leur bagage un incroyable trésor.
Mais un sacré linge sale aussi, j'imagine. Hein.
Non, non. Plutôt des diamants scintillants, des perles laiteuses, des saphirs d'un bleu profond.
Vous êtes sûr ou vous brodez encore, là ?
Certain, Mathieu. Le retour de Marco Polo à Venise est très bref. Une guerre éclate entre la République de Venise et la ville de Gênes, sa rivale. Marco Polo n'hésite pas. Il arme à ses frais un navire et participe au combat en Méditerranée pour soutenir la flotte vénitienne. Mais manque de chance, en 1298, notre aventurier est capturé et envoyé en prison à Gênes. C'est pendant sa détention qu'il dicte ses mémoires à un certain Rusticello de Pise, son compagnon de cellule. Pendant 2 ans, il lui raconte son incroyable voyage publié sous le titre « Dévissement du monde » ou « Livre des merveilles ». On en fait de nombreuses copies manuscrites. L'imprimerie sera inventée plus d'un siècle plus tard, vous le savez, et le livre est traduit en plusieurs langues. Marco Polo raconte son odyssée en Asie, décrivant ce qu'il a vu. Certains l'accusent de mentir ou d'inventer, et ce n'est pas tout à fait faux.
Je me doutais depuis le début que l'un de vous deux mentait, c'était donc lui. Me voilà rassuré, Marco Polo est un gros mytho.
Non, disons plutôt, cher Mathieu, qu'il a enjolivé son récit. Il décrit des chats à visage humain ou des oiseaux géants capables de soulever des éléphants.
Ouais, donc c'est un gros mytho. Quoi.
Les historiens débattent encore pour démêler le vrai du faux dans ces récits. Certains même on niait qu'il soit arrivé jusqu'en Chine. Selon eux, le voyageur n'aurait pas dépassé les rivages de la mer Noire, ce qui expliquerait que dans son ouvrage, il n'évoque ni l'usage du thé, ni la grande muraille ou la langue chinoise. Toujours est-il que son livre des merveilles est un best-seller dès sa sortie. À 45 ans, Marco Polo décide de ne plus reprendre la mer. Il revient à Venise et épouse l'héritière d'une prestigieuse famille, Donata Badoer, avec qui il aura 3 filles. Devenu une personnalité importante et l'un des marchands les plus riches de sa ville, Marco Polo meurt chez lui en janvier 1324, à l'âge de 70 ans. Sa soif de découverte perdurera après sa mort, puisque le récit de son voyage inspirera les explorateurs après lui, dont Christophe Colomb, pour sa grande expédition en direction de l'Amérique.
16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Alors, Marco Polo était un homme qui aimait aller toujours plus loin, un peu comme nous, Stéphane. Voilà pourquoi nous accueillons Christian Clos, grand explorateur et écrivain connu pour ses expéditions les plus extrêmes à travers la planète.
Bonjour Christian Clos.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de la Société des explorateurs français. Vous avez consacré une BD à Marco Polo en 2 tomes. Marco Polo, le garçon qui vit ses rêves, et Marco Polo à la cour du Grand Khan aux éditions Glénat. D'abord, une question sur la véracité du récit de Marco Polo. Il est allé en Chine ou pas ?
Oui, à titre personnel, j'ai aucun doute qu'il est allé en Chine et qu'il y a fait des choses extraordinaires. Les récits de voyage sont toujours compliqués, surtout après 27 ans de voyage, après autant de périples. Comment raconter autant d'aventures en si peu de temps ? Et puis, il ne faut pas oublier que Marco, quand il part, c'est un adolescent, un jeune enfant presque, et qui part avec plein de rêves, plein d'imaginaires, et qui va dicter son récit en plus à un écrivain qui, lui, va à lui-même, à son tour, enjoliver un peu. Donc, tout ça fait que, finalement, on arrive à un récit un peu trop grandiose par rapport à la réalité, mais plein de détails montre qu'il y a quand même une réalité qu'il n'aurait pu connaître s'il n'avait pas été là-bas.
Dans le récit de Stéphane, on apprend que dans son livre des merveilles, il ne mentionne ni l'usage du thé ni la grande muraille en Chine. C'est quand même un petit peu bizarre, ça. Ça vous semble pas étrange ?
Alors, pas vraiment, puisque Stéphane l'a dit, Marco regarde les choses comme un marchand au début. Oui. Et il va décrire ce qui le fascine et qui, quelque part, est commerçable. Et finalement, la muraille de Chine n'est qu'un élément parmi tant d'autres qu'il a découvert durant son périple. Il faut imaginer qu'à l'époque, les Européens ne connaissent pas encore les Amériques, ne connaissent pas encore le Pacifique. Aller en Chine est un exploit hallucinant. Et que finalement, tout devrait être raconté, ce qui n'est pas possible en un livre de 80 pages.
Ce qui est possible en BD. Est-ce que pour vous, Christian Clos, c'est un explorateur ou un aventurier ou simplement un marchand ?
Il est parti comme un aventurier, à savoir que c'était un jeune homme qui voulait juste découvrir le monde, suivre son oncle et son père. Il est revenu un explorateur. Quelle est la différence? Elle est très simple, c'est que l'aventurier vit des choses pour lui-même, il essaie de se dépasser, de vivre des choses qui lui plaisent. L'explorateur a pour mission de rapporter une information, une nouvelle connaissance qui va servir à l'humanité. Et clairement, en racontant son voyage, en expliquant ce qu'était ce monde incroyable de la Chine, il est devenu l'explorateur Marco Polo.
Christian Clos, vous restez avec nous, on continue de parler ensemble de notre aventure du jour, Marco Polo.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Les grands aventuriers ont toujours été le moteur de l'histoire. Ainsi, près de 8 siècles avant que Stéphane Bern et moi ne reliâmes cet été Paros à Antiparos en canoë-kayak biplace, que Stéphane ne s'exclame
« Je suis le maître du monde !»
Marco Polo, notre illustre prédécesseur, s'est lancé sur les flots direction l'Asie.
Et oui, et pour en parler, nous avons la chance d'accueillir cet après-midi Christophe Clos, grand explorateur et écrivain, auteur notamment de Marco Polo, le garçon qui vit ses rêves, et Marco Polo à la cour du Grand Khan, BD en 2 volumes, paru aux éditions Glénat. Est-ce que vous avez suivi, Christian Clos, le chemin, la route de la soie, sur les pas de Marco Polo, ou vous contentez d'être explorateur devant vos BD?
Non, j'ai effectivement pas suivi exactement le chemin de Marco Polo, mais j'ai fait plusieurs expéditions en Iran et globalement en Asie centrale, et j'ai eu l'occasion lors de certaines de ces expéditions de revoir certains lieux, certaines descriptions que Marco Polo a fait, ce qui m'a d'ailleurs convaincu de la véracité de son ouvrage, puisque certains sites, notamment iraniens, notamment la montagne aux assassins, tous ces sites sont bien présents et se retrouvent dans son récit.
C'était quoi la fonction exacte de Marco Polo à la cour de Kubilai Khan? Moi, ça, j'ai pas personnellement très bien compris. Comment il est devenu conseiller? Il était un protégé? Qu'est-ce qu'il faisait exactement, concrètement? Est-ce qu'on le sait?
Ça reste très peu clair, hein, ce qu'il a fait exactement à la cour. Cependant, il y a deux choses qu'on peut imaginer. La première chose, c'est que Kubilai est fasciné par ces marchands qui viennent de loin, qui ont parcouru ces milliers de kilomètres pour venir le rencontrer. Et déjà, c'est quelque chose qui le fascine et qui l'intéresse, puisqu'il va pouvoir avoir des descriptions de ce voyage. Il ne faut pas oublier que Kubilai est le descendant de Genghis Khan, hein, le fameux conquérant, et que quelque part, il a cette idée toujours de comprendre le territoire qu'il dirige, qui est énorme. La deuxième chose, c'est que Marco Polo ne représente pas un danger pour lui. On est à une cour très complexe où tout le monde a envie de devenir empereur à la place de l'empereur. Et Marco Polo et les Polos en général ne présentent aucun danger par rapport à ça. Donc il n'est pas étonnant qu'il ait pu se voir confier certaines missions, même délicates. De là à dire qu'il était le conseiller préféré de Kubilai, on en est certainement très loin. Mais certainement qu'il a été, pendant un temps en tout cas, son protégé.
Il y a une différence aujourd'hui quand on fait une exploration. En tout cas, quand on mène l'aventure, on part pour un mois. Ou 2 mois là-bas,
on partait
pour une vie, 26 ans, enfin on risquait de ne jamais en revenir. Ça change les données, effectivement.
Oui, effectivement, on est à des époques où le contact avec l'extérieur est quasiment impossible lors d'une expédition, mais plus proche de nous, Alexandre David Nel était déjà parti pour 14 mois et est resté également des années dans son voyage en Asie. Donc c'est peut-être cette fascination d'un territoire qui est tellement vaste que lorsqu'on y part, on n'en revient peut-être jamais totalement, et c'est ce qu'a vécu Marco Polo.
Est-ce qu'il y a encore de vrais aventuriers aujourd'hui en 2020 par rapport au degré d'aventure qui était vécu par Marco Polo à l'époque, avec tous les dangers inhérents? On a dit la durée du voyage, ne serait-ce que ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler d'aventuriers? Est-ce que pour vous, il y a des grands aventuriers encore aujourd'hui?
Oui, bien sûr, des grands explorateurs, des grands aventuriers, il en existe toujours. La seule différence, c'est qu'on repousse chaque fois les limites un peu plus. Certes, les outils technologiques paraissent des fois donner beaucoup d'informations, mais quand on est sur le terrain, au milieu de nulle part, dans des territoires extraordinairement difficiles et violents, toute la technologie ne veut plus rien dire. C'est bel et bien vous, par rapport à une nature, par rapport à un terrain, par rapport à une compréhension. Et au lieu de regarder les choses dans leur globalité, aujourd'hui, on va regarder les choses de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus spécifique. Et la grande aventure de l'exploration, à mon avis, est sans fin.
Une dernière question. Si vous dirigez, Christian Clos, une collection de bandes dessinées Explora aux éditions Glénat, consacrée aux grands explorateurs de notre monde, Magellan, Mary Kingsley, Richard Francis Burton, quelle autre personnalité vous fascine autant que Marco Polo, auquel vous avez consacré 2 tomes de BD?
Je dirais que les deux personnalités qui me fascinent tel Marco Polo, c'est clairement Charles Darwin. On oublie qu'avant d'être le grand découvreur de la théorie de l'évolution, c'est d'abord quelqu'un qui a passé 5 ans autour du monde sur un navire avec Fitzroy, qui a mouillé la chemise, hein, comme on dit, pour pouvoir faire ses découvertes. Et Magellan, qui est un peu trop oublié de l'histoire, mais cette volonté... Ces trois personnages marquent une même idée, c'est la volonté. L'idée qu'on ne doit jamais laisser derrière nous ses envies et ses rêves et qu'on doit les pousser jusqu'au bout, quitte à prendre des risques parfois surhumains et finalement arriver à des découvertes qui sont tout simplement extraordinaires et qui ont changé le cours de l'histoire. Et en ce sens, ce sont des personnages qui sont fascinants.
Merci beaucoup, merci. Christian-Claude, d'avoir été avec nous. On rappelle votre BD Marco Polo, le garçon qui vit ses rêves, et Marco Polo à la cour du Grand Cannes.
Europe 1.
Et maintenant, couchez les enfants ou bouchez-leur les oreilles.
C'est mieux.
Clémentine Portier-Kaltenbach s'apprête à nous transporter dans l'intimité de l'histoire.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue dans une allégresse qui n'enlève en rien la véracité de nos récits. Chaque après-midi, on vous raconte trois destins hors du commun. On vous entraîne aussi, Mathieu, dans les coulisses de l'histoire.
Oui, Stéphane, notamment dans les chambres à coucher ou dans l'affolante moiteur des lits à baldaquin, bien des intrigues se sont nouées. On pense évidemment à Henri VIII découvrant Anne Boleyn dans les bras de Lord Rochford.
Mais ma fillotte, que fait ton mari cul nu devant cette femme? Elle lui frotte le fessard.
Eh oui, c'est ça aussi l'histoire, Stéphane. Bonjour.
Ah oui, mais écoutez, la naissance, ça aussi c'est une aventure. Hein,
oui,
ah parce
oui.
Que Mike Horn, c'est gentil, mais enfin un accouchement, dis donc.
C'est l'aventure hein. Surtout, aussi. On mourait en couche à l'époque.
Bien sûr, bien sûr. Alors évidemment, de nos jours, on a la péridurale, mais enfin songez au sombre bataillon des mères qui, depuis la nuit des temps, ont subi la malédiction biblique, tu enfanteras dans la douleur. Alors Stéphane et Noël, je vous le demande.
Mathieu,
mais moi j'aime bien Noël. Je ne peux pas vous appeler Noël.
Oui,
après
oui,
tout, David,
il se met bien
des bussins quand il fait une citation latine. Bon, alors, Mathieu, bon, si ni l'un ni l'autre n'avait jamais eu de colique néphrétique, alors vous n'avez pas la moindre idée de ce que sont les douleurs de l'enfantement. Raison de plus pour avoir une petite pensée pour toutes les mères prolifiques dont l'histoire nous a conservé la trace. Et pour vos mamans aussi, messieurs. Allez, un petit quiz à ma manière. Alors, combien d'enfants c'est la Marie d'Anjou, épouse du roi Charles VII, voyez, le roi de Jeanne d'Arc hein. Bah, dites-moi au pif. Hein.
Combien d'enfants elle a eu?
Ouais, à 40, 42 ans, combien elle a eu d'enfants déjà?
À 10 près?
Ouais. Non, moi je dirais 13.
Exactement, oui. 13,
c'est
exactement,
le bon
exactement
chiffre.
Bravo. Alors Catherine de Médicis, qu'on a longtemps cru stérile. Hein.
Bah, j'en connais 6, mais il y en a...
Oui, bah parce qu'il y en a pas mal qui sont morts, et malheureusement, à la naissance. Hein. Alors, Catherine de Médicis, on l'a longtemps cru stérile, alors qu'en fait, c'est son mari.
En fait, non, c'est-à-dire que ça ne rentrait pas dans le bon sens.
Exactement, c'est son mari.
Attendez.
Ça s'appelle un hypospadias.
Elle avait le sexe inversé.
Ah non, c'est son mari. Ce que vous racontez,
son
je
ne
vois pas comment une femme...
Non, les deux n'entraient pas l'un dans l'autre.
Voilà. Son mari avait le sexe inversé. Vous en avez trop ou pas assez, excusez-moi,
mais
Noël,
on a du mal à visualiser. Mathieu, pensez à la tour de Pise, Mathieu.
Oui, elle penche un peu. Comme
son
oui.
Mari souffrait d'un hypospadias, donc il y avait un petit problème technique, mais je vous raconterai ça une autre fois. Là, je suis sur les enfants. Hein. Alors, Marie Lexinska, l'épouse du roi Louis XV, 10 enfants. Vous savez, c'est elle qui se plaignait amèrement de ses grossesses à répétition. Et quoi? Toujours couchée, toujours grosse, toujours accouchée. Et puis sans oublier Laetitia Ramolino, la mère de Bonaparte. 8 enfants seulement, hein, oui. Serait-on tenté de dire. Peut-être qu'elle n'aimait pas vraiment les enfants, cette dame. Et encore, je vous fais grâce de toutes celles qui moururent en couche d'épuisement, comme la malheureuse Reine Claude, épouse de François Ier. Mais oui, Mathieu, c'est bien elle qui disparaît 24 ans après avoir donné la vie à son 7e enfant. Et c'est bien elle qui a donné son nom à une prune.
Hein,
ça, voilà, ça vous saviez,
oui.
Voilà. Alors, plus près de nous, beaucoup plus près de nous, Eugénie de Montijo, hein,
oui.
Épouse Napoléon III.
Bon,
pourquoi? Mais pourquoi croyez-vous qu'elle en ait eu qu'un?
Parce que le gynéco ne voulait plus qu'elle en ait.
Pourquoi? Parce qu'on l'a fait accoucher au fer. Exactement.
On prenait des fers pour tirer l'enfant qui se présentait mal, en fait.
La vie commençait par la torture, déjà.
Les forceps, tout simplement, Mathieu. Hein. Alors, elle a eu le bassin fracturé, donc elle n'a plus pu avoir d'enfant ensuite. Alors, il y a une mère de famille nombreuse qui va changer la donne, c'est Victoria, la reine d'Angleterre. Elle a une sainte horreur d'accoucher, elle craint à chaque fois d'y laisser la vie. Elle a des délivrances très longues et très douloureuses, elle parle de calvaire. Après, elle est en totale déprime, elle considère qu'une naissance est pire qu'une mort. Bref, elle donnerait son empire pour moins souffrir. Or, à l'époque, l'anesthésie, on est encore à ses balbutiements. On utilise de l'éther, mais l'éther, ça prend feu. Donc, vous imaginez? La moindre cigarette allumée dans la...
Je ne mets pas dans la chambre d'une accouchée, quand même.
Oh, bah pourquoi pas, tout est possible. Hein. Alors, donc, le problème, c'est que l'éther, ça prend feu, et il faut donc attendre le début des années 1830 pour que soit mis au point un mélange d'alcool et de chlorure de chaux qualifié de chloroforme. Mais là encore, toute la question, c'est à quel dosage l'utiliser? Si on vous en donnait trop, c'est mortel. Alors, il y a un gynécologue à Édimbourg qui finit par trouver le dosage idéal.
une petite cuillère. Alors, retenez bien, parce que si vous utilisez... Alors, une petite cuillère à café de chloroforme versée lentement sur un mouchoir. Et alors là, évidemment, ça va devenir la providence des parturientes et des opérés du monde entier. Et c'est ainsi qu'en 1853, la reine Victoria est la toute première femme au monde à bénéficier du chloroforme pour accoucher. Voilà. Et c'est pourquoi, en Angleterre, l'accouchement sous chloroforme va devenir l'accouchement à la reine. 4 ans plus tard, toujours sous chloroforme, elle donne le jour à la petite princesse Béatrice, son 9e et ultime enfant, après un accouchement de près de 14 heures, hein, quand même. Hein. Alors évidemment, entre péridurale et chloroforme, accoucher dans la douleur n'est peut-être plus parole d'évangile. Presque donner la vie ne sera jamais vraiment une promenade de santé.
Merci beaucoup Clémentine. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire, personnellement, je n'ai pas très bien compris sur ce sexe inversé de je ne sais plus quel monarque.
Ah bah ça c'est non, Henri II, ça c'est la confusion
Henri
de Stéphane.
II, non, c'est pas une confusion.
Mais sans garde déjà, mais c'est parfait.
Un docteur est allé les...
Oui, Fernel. Parce que, en fait,
il est allé leur expliquer comment il fallait que ça rentre l'un dans l'autre.
Il fallait que monsieur prisse madame par derrière.
Voilà.
C'est comme
très
ça qu'elle a eu 11 enfants.
Eh ouais. Bien, la controverse commence, ça tombe bien. À suivre dans Historiquement Vôtre, le choc des cerveaux. Chaque après-midi, pour se remettre de nos émotions après les récits aventureux de Stéphane Bern et scabreux de Clémentine, on s'offre une parenthèse ludique en jouant à Bern to be Alive. Ce quiz qui marquera indéniablement l'histoire de l'audiovisuel avec son concept novateur, pour ne pas dire révolutionnaire, je pose une question, une bonne réponse égale un point. Concept, ne vous excitez pas, confrères des autres radios, que nous avons évidemment déposé à l'INPI, pas folle les guêpes. Oui, jouons à Bern to be Alive. Première question est pour vous, Stéphane. On doit la première projection publique d'un film de cinéma aux Frères Lumière, date du 28 décembre 1895. 20 ans, jour pour jour, c'était le premier film à caractère pornographique. Vrai ou faux ?
Je serais tenté de dire oui.
Vous êtes tenté de dire oui, mais pourquoi êtes-vous tenté de dire oui ?
Bah parce que ça me plairait bien.
Ça vous plairait bien que le X soit arrivé assez vite ?
Oui, qu'il y ait eu un...
Oui, mais il aurait pu arriver encore plus vite finalement.
Il y avait, à cette époque...
À cette époque, non, il était quand même prude. Eh bien, c'est faux, Stéphane.
Oui, c'est faux.
Juste...
Moi, j'aurais dit faux.
Vous auriez dit combien ?
J'aurais dit faux parce que la première femme nue au cinéma, c'était cette super nageuse australienne qui faisait des courses dans les fleuves européens. Elle est la première à poser nue et c'est vraiment avant la guerre de 14. Donc, je trouve que 20 ans le premier film pornographique, où c'est resté quelque chose d'hyper confidentiel, où c'était
peut-être,
pas, ça n'était pas possible.
Mais peut-être, je l'ai d'ailleurs, je vais vous le dire.
Stéphane, vous êtes vraiment pudibon. C'est juste un an plus tard,
1896.
Le premier film des Frères Lumière durait 50 secondes. Là, le premier film coquin dure 7 minutes. Il est intitulé Le coucher de la mariée.
Ah,
il a été réalisé
oui.
par Albert Kirchner, un peu l'ancêtre de Marc Dorcel.
C'est pornographique.
Pas 20 ans,
c'est un an.
Le coucher de la mariée. C'est que la première
femme. Ah oui, c'est pas assez pornographique pour vous, c'est ça que vous voulez dire.
Bien sûr, la première femme nue qu'on a vue à Paris, c'était à l'époque à peu près de Baudelaire au divan japonais rue des Martyrs. Et en fait, la femme nue en question, elle avait un juste au corps rose et ça a friolé tout Paris. Pornographique. Faut voir ce qu'on entend par pornographique, ouais. Excusez-moi.
Question numéro 2, Clémentine, justement. Avant de mener une brillante carrière de révolutionnaire, l'Argentin Che Guevara était bouché. Vrai ou faux ?
Non, c'est faux. Che Guevara était médecin. Non, si, mais Che Guevara était médecin. Qu'est-ce que vous mettez en pleine
J'ai
confusion.
Semé le doute en elle. Elle a débattu avec elle-même, elle a la bonne réponse. Il était médecin, évidemment. Il avait fait ce choix pour s'occuper de sa grand-mère malade. Et donc, il n'est pas bouché, Che. Je viens de comprendre pourquoi cette question a été choisie. C'était à cause de ce jeu de mots pourri sur
boucher,
Che. D'accord, très bien. On embrasse Sébastien Bordonnet, c'est important de citer son nom, puisque c'est lui qui prépare ce quiz. Question numéro 3, à vous Stéphane. Est-ce que Vincent Van Gogh aurait pu boire du Coca-Cola ?
Oh, ça date de quand le Coca-Cola ?
C'est la fin du 19e, Stéphane. Je pense que.
Moi,
je dirais les années
oui.
1880. Allez,
disons oui.
Vous dites oui ?
Oui, moi, vous savez, je suis un aventurier.
Vous êtes un aventurier du quiz.
Du quiz, parce que. C'est les jeux, c'est pas mon truc.
Eh bien pourtant, c'est une bonne réponse, Stéphane.
Incroyable.
Oui, la première recette du Coca-Cola est inventée en 1885 et Vincent nous a quitté. Ça lui a rien apporté, c'est vrai, lui du tout. Et Vincent nous a donc quitté en 1890, donc il aurait pu connaître cette sensation qu'on appelle Coke. Et si on calcule bien, 90, il aurait pu s'y voir un petit film porno en buvant Coca-Cola un tout petit peu plus tard. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. 1173, c'est le démarrage en Italie de la construction de la tour de Pise dont vous parliez tout à l'heure. Dès le début des travaux, elle penche. Dès le début des travaux, est-ce vrai ou faux ?
Oui, je pense que oui. En effet, elle me fait irrésistiblement penser à l'hypospadiase d'Henri II.
L'hypospadiase, donc maintenant, chers auditeurs, vous pouvez le visualiser. Et effectivement, c'est une bonne réponse. La tour n'a jamais été droite. Historiquement, la tour de Pise est un campanile. Alors attention, rien à voir avec la chaîne où on s'arrête parfois pour consommer, c'est pas des bonnes brochettes. À savoir qu'elle sert à abriter des cloches. On a d'abord construit 3 étages, puis voyant que ça penchait, on a construit la suite pour que ça penche dans l'autre sens.
Mais sans succès.
Depuis 1990, elle a arrêté de s'incliner. Avant le Covid, elle se visite par groupe de 30 personnes depuis 2001. Question, c'est l'ultime question du jour. Elle va vous départager. Elle est adressée à tous les deux. C'est une question de rapidité. Louis XVI a été le premier à utiliser une expression. Laquelle ? Fonds de solidarité, justice sociale ou garder la tête sur les épaules ?
Justice sociale.
Justice sociale, oui.
Ouais. Ah, ça a fusé dans vos esprits éclairés comme ça.
C'était un humaniste, Louis XVI.
Oui. C'est un humaniste ?
Oui.
Oui. C'était en tout cas une bonne réponse. C'était en 1784, dans l'Esprit des journaux, un journal publié mensuellement, que l'on rapporte des propos de Louis XVI où il emploie cette expression. Mon cher Stéphane, comme le PSG l'autre jour, vous n'avez pas démérité, mais comme le Bayern de Munich l'autre jour, c'est Clémentine.
J'ai marqué 2-2. Non, excusez-moi, pardon de revenir. On peut réécouter l'émission. Stéphane, vous avez dit que c'était une course de vitesse. J'ai répondu avant Clémentine.
La dernière, on a répondu ensemble, Stéphane.
Non, c'est ensemble apparemment. Donc ça ne suffit pas pour l'emporter. C'est Clémentine qui a 3 points, vous seulement 2. Sur le poteau, coiffé au poteau. Bravo Clémentine, une fois de plus.
Europe 1.
Qui dit histoire, dit aussi aventure. À l'occasion du retour ce soir à la télé d'une nouvelle saison de Koh-Lanta, on revient aujourd'hui dans Historiquement Vôtre sur les 3 destins de 3 aventuriers d'avant Koh-Lanta. Marco Polo, Ella Maillard, sans oublier l'homme à la poigne de fer qui a broyé les phalanges de Mathieu Noël, Mike Horn.
Et pas encore les gestes barrières, hélas, à l'époque.
Sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre.
Raconter l'histoire sans se la raconter. C'est l'ambition de notre nouveau rendez-vous chaque après-midi entre 16h et 18h. Avec Mathieu Noël, nous sommes Historiquement Vôtre.
Vous voyez peut-être plus si affinité Stéphane, nous verrons ça au fil de la saison. Mais pour l'heure, on est déjà enchanté de vous parler d'histoire avec aujourd'hui, à l'occasion du retour sur TF1 d'une nouvelle saison de Koh-Lanta, une spéciale, les aventuriers d'avant Koh-Lanta. Chacun son titre de gloire, Marco Polo, découvreur des merveilles de la Chine, Ella Maillard, pionnière de l'alpinisme, ou encore Stéphane Bern, selon certaines sources.
Champion du monde du cassé de noix avec ses fesses.
Selon certaines sources. Au programme de cette deuxième heure, Stéphane, on aurait pu parler de vos prouesses, on va plutôt parler de celle plus fascinante encore, d'Ella Maillard.
Eh oui Mathieu, et vous nous parlerez aussi d'un aventurier des temps modernes dont vous dresserez un portrait 99% vrai, Mike Horn, un homme qui sait tout faire de ses 10 doigts.
9 Stéphane, 9.
On accueillera également Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique.
2 estomacs.
Il se donne à 100%, 120 même, thermostat. Il viendra nous raconter l'histoire d'un ingrédient qui reste parfois un peu sur les dents. Mais on commence par une compatriote à vous, Mathieu, dont je vais vous raconter l'incroyable histoire, Ella Maillard.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre.
Je me retrouve vraiment dans l'aventurière dont nous allons parler maintenant, Stéphane. Elle est suisse, belle et intrépide. Or, pour ma part, je suis suisse. Je suis suisse, quoi.
Historiquement Vôtre. Le récit.
Vous parlez, Mathieu, d'une voyageuse particulièrement audacieuse. Écrivaine et photographe, Ella Maillard s'est rendue en URSS, en Chine, en Afghanistan, en Inde et dans bien d'autres contrées. Certes, avant elle, d'autres aventurières ont parcouru le monde. Alexandra Davidnet, première européenne à pénétrer à Lhasa, capitale de l'ancien royaume du Tibet, ou la reporter américaine Nellie Bly qui fit, en 1889, le pari audacieux mais réussi de parcourir le globe en 72 jours. Digne héritière de ses aînés, Ella Maillard parcourt inlassablement les longues routes de l'Orient. Ses écrits ont fait d'elle une légende de la littérature de voyage. Des milliers de photographies témoignent de son intrépidité et de sa vaillance démesurée.
Vous savez bien qu'on peut faire dire ce qu'on veut à une photo, Stéphane. Vous pensez vraiment qu'Emmanuel Macron a fait du jet ski cet été, par exemple ?
Non, vous me l'apprenez. En 1935, Ella Maillard est la première femme blanche à fouler les contrées hostiles du Turkestan, de la Mongolie et de la Tartarie. C'est le nom donné par les Européens à la Mandchourie. Son compagnon de route n'est autre que le journaliste Peter Fleming, frère du romancier Ian Fleming, qui s'inspirera de sa vie pour créer le célèbre personnage de James Bond. Lors de leur périple, Ella Maillard sauve la vie de Peter en l'empêchant d'être projeté hors d'un camion. Autre preuve de sa témérité, quelques années plus tôt, en 1932, dans les hautes montagnes du Kirghizistan, en Asie centrale, l'exploratrice tombe gravement malade. Sa température grimpe jusqu'à 40 degrés, peu importe. Elle ne rebrousse pas chemin, malgré sa fièvre et l'épuisement. Elle là s'enfonce dans le blizzard pour escalader un sommet haut de près de 5000 mètres. À son retour au refuge, ses compagnons de voyage sont médusés par la prouesse de la jeune alpiniste.
J'ai l'impression que vous nous racontez la vie de Lara Croft. Vous n'avez pas trompé de fiche, Stéphane ? Parce que ça arrive même aux meilleurs. Hein. Il est encore temps de le reconnaître et de faire machine arrière.
Pas du tout. Il s'agit bien d'Ella Maillard. Elle est à la fois une battante et une sportive de haut niveau. Il faut le dire, elle n'a pas froid aux yeux, rien ne l'arrête. Enfant, elle se lève à l'aube le week-end pour skier avec sa mère. À 16 ans, elle fonde le premier club féminin de hockey sur terre en Suisse romande. Et à 20 ans, elle rejoint la Corse en voilier avec une amie.
Au moment où j'ai déjà fait le tour de la Corse en voilier, c'est pas pour autant qu'on parle de moi dans une émission comme ça, hein, Stéphane.
Oui, parce que vous êtes arrêté là. En 1924, la jeune athlète a l'honneur de représenter la Suisse aux Jeux Olympiques de Paris pour l'épreuve de voile en solitaire. Ça, vous ne l'avez pas fait.
Non, je me suis arrêté au Tour de Corse.
Elle est la seule femme et la plus jeune. Mais à 21 ans, elle navigue déjà comme un vieux loup de mer et termine 9e sur 17 participants.
Ce qui est bien, mais pas top.
Bah, revenons au tout début de notre aventurière. Née le 20 février 1903 à Genève,
quelle belle ville.
Ella Maillard est la fille d'un commerçant en fourrure fortuné. Enfant, elle pioche dans la bibliothèque d'Albert, son frère aîné. Roman de Jules Verne et conte de Peau-Rouge construisent son goût pour l'aventure. En classe, au lieu d'écouter ses professeurs, elle voyage en compagnie des héros de romans, luttant contre des tempêtes apocalyptiques en Atlantique, chassant le bison dans les grandes plaines américaines. À 17 ans, un an avant le bac, elle quitte les bancs de l'école au grand désarroi de ses parents pour devenir marin. En 1924, Ella Maillard rallie Marseille à Athènes sur un bateau sans moteur, avec son amie Hermine de Saussure, surnommée Miette.
Comme Loana du Loft. Vous êtes cultivé, Stéphane, vous savez ça.
Ah oui, c'est vrai, je ne m'en souviens plus.
Il n'y a jamais de hasard.
Avec son amie Miette, donc, elle projette de traverser l'Atlantique. Mais Miette se marie et le projet est abandonné. On peut même dire qu'il tombe à l'eau.
Oh, quel sens de la propos.
Ella Maillard, quant à elle, ne se laisse pas prendre dans les filets de la vie maritale. Elle ne songe pas à fonder une famille, mais revendique sa liberté. Je cite Christelle Mouchard, qui sera avec nous dans un instant, qui dans l'ouvrage qu'elle a dirigé « Elles ont conquis le monde, les grandes aventurières 1850-1950 », nous explique qu'Ella Maillard ne cherche à aucun moment à mettre ses pas dans le chemin qui conduit ordinairement les jeunes filles de bonne famille dans les cases que l'on réserve. Ce que cherche Ella en définitive, c'est de l'exploration du monde, le frisson de l'aventure. En 1930, elle a 27 ans et rêve de pénétrer l'URSS. Cette jeune...
Et pas l'inverse.
Non, Mathieu, non, on ne peut pas dire ça. Il faut rappeler déjà aux jeunes ce qu'était l'Union soviétique, l'URSS.
Oui, il faut le rappeler, effectivement.
Ce jeune État communiste est alors méconnu et peu d'Européens ont l'occasion de s'y rendre. Tant de mystères intriguent la jeune Ella qui demande un visa et l'obtient en prétextant réaliser un documentaire sur la jeunesse russe. Elle a une centaine de dollars en poche et quelques provisions, du saucisson, du beurre, des biscuits, du riz et une grammaire. Il faut préciser que la jeune téméraire ne parle pas un mot de russe. Pourtant, cela ne l'empêchera pas, après quelques mois à Moscou, de se lancer dans une traversée du Caucase. Voyager léger, c'est une manie chez cette aventurière. En 1935, quand elle entame son périple en Tartarie, l'une des régions les moins explorées du globe, sa valise contient 3 sweaters et 3 caleçons de laine.
Un peu moins sexy que Lara Croft, là effectivement on s'éloigne.
Oui, à Pékin, en 1935, avant d'entamer son grand voyage en Tartarie, terre hostile et en pleine guerre, elle se retrouve à acheter un revolver pour se défendre des ours, mais aussi des brigands. Pendant plusieurs jours, elle s'entraîne à tirer, décapitant avec adresse des dizaines de bouteilles vides. Il faut dire que la jeune femme craint les mauvaises rencontres. Quelques mois plus tôt, dans un train, Ella Maillard est brutalisée par des militaires japonais. L'intrépide voyageuse rétorque en giflant l'une de ces brutes qui tire une baïonnette de sa ceinture.
Et alors ?
Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé.
Europe 1.
C'est votre plaisir, je dirais même, vu que je commence un peu à vous connaître, Stéphane, votre vice. Nous laisser ainsi en plan au moment le plus savoureux de votre récit. Qu'est-il arrivé ensuite à Ella Maillard ? Stéphane jubile de nous faire marier.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue, les amis. Deux heures durant lesquelles aujourd'hui nous nous penchons sur des destins très différents, mais unis par le goût du dépassement de soi. Marco Polo, Mike Horn et ma compatriote, la Suissesse Ella Maillard. Pour rappel, comme on dit à la montagne, Stéphane Bern a vicieusement lancé la pub au moment où Ella se trouve prise à partie par des soldats japonais, armés et visiblement prêts à en découdre.
Oui, et la réaction d'Ella va vous étonner, Mathieu. Elle éclate de rire malgré sa terreur. Les militaires japonais, décontenancés par son attitude, continuent leur chemin. Réconfortée par un chef de train russe, les genoux encore tremblants, elle se remet de ses émotions en ingurgitant quantité de vodka.
Quand vous dites que le chef de train l'a réconforté, Stéphane, ça reste dans les dimensions de ce qui se pratique à la SNCF quand on rassure quelqu'un ou c'est allé un peu plus loin ?
Non,
rien de tout ça. Mais en tout cas, elle était bourrée, c'est ce que j'ai compris. Elle s'est réchauffée la vodka.
Bon, elle a pris l'habitude de boire de la vodka. Quoi qu'il en soit, Ella Maillard n'est pas du genre à renoncer face à un obstacle. Avec ses yeux bleus perçants, son visage buriné par le soleil et le vent, c'est une vraie dure à cuire. Et elle ne peut pas faire faux bond au journal Le Petit Parisien, célèbre pour ses grands reportages, qui sponsorise son expédition en Chine. Depuis quelques années, les récits que l'exploratrice tire de ses voyages financent ces mêmes voyages. Elle a écrit plusieurs ouvrages à succès parmi la jeunesse russe, en rentrant du RSS en 1932 ou des Monts Célestes au Sable Rouge après son périple en Asie centrale l'année suivante. Elle expose ses photographies en 1934 au Palais du Trocadéro à Paris. Le public émerveillé découvre alors, en images, la vie dans les steppes. Suffocante l'été et glaciale l'hiver.
Ça peut être un peu le résumé du métier d'aventurier, ne pas craindre le chaud l'été et le froid l'hiver.
Exactement. Ella Maillard aime dépasser ses limites. Elle utilise le voyage comme une fuite. Elle veut s'éloigner d'une société occidentale qui ne l'intéresse pas et peut-être même l'effraie. Ella veut poursuivre la route, rompre les amarres avec ce monde de nantis qui sabre, tue et détruit ce qu'il a construit, peut-on lire dans une biographie consacrée à Ella Maillard, signée par Olivier Weber. Mais rassurez-vous, la globe-trotteuse partage ses plus beaux voyages avec différents compagnons d'aventure.
Ah.
Miette, en Grèce, dans sa jeunesse, Peter Fleming, en Chine, ou encore la romancière Anne-Marie Schwarzenbach. Avec cette dernière, Ella Maillard s'embarque en 1939 vers l'Afghanistan, passant par la Turquie, l'Iran, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Ce voyage en voiture est une sorte de thérapie, une dernière chance pour Anne-Marie, jeune romancière toxicomane et suicidaire. Hélas, malgré l'amitié et le soutien indéfectible d'Ella, la jeune femme retombe sans cesse dans l'addiction. Leur route se sépare quand la Seconde Guerre mondiale éclate. Anne-Marie choisit de rejoindre l'Europe tandis qu'Ella s'installe plusieurs années en Inde où elle suit l'enseignement des maîtres de sagesse hindous. Après-guerre, la voyageuse reste sur le chemin d'harmonie qu'elle a choisi. De retour en Europe, elle s'installe à Chandolin, village...
Oh, même à Chandolin, Stéphane.
On dit Chandolin.
Après, on dit Chandolin, comme je suis suisse, je peux vous le dire. Oui.
Mais moi, j'aimais bien Chandolin.
Chandolin. Elle était restée en Asie pour vous. C'était à Chandolin, Chandolin, tout simplement.
Je ne peux pas changer le nom du village.
Alors, je demanderai, est-ce que oui. Je dirais que Stéphane Bern préférait qu'on appelle ça Chandolin. Ça sera
moi,
très
j'aimais
bien
Chandolin.
Maintenant, je vous inviterai à jouer à Chandolin.
Village, donc, Chandolin,
oui.
Village des montagnes suisses. Et elle devient guide culturel pour une agence genevoise. Régulièrement, elle accompagne des petits groupes de voyageurs en Indonésie, en Inde ou au Népal. Rien ne semble l'arrêter, pas même la vieillesse. À l'aube de ses 80 ans, cette battante continue de dévaler les pentes enneigées, juchée sur des skis. Et c'est le 27 janvier 1997, à l'âge vénérable de 94 ans, que disparaît celle que Paul Valéry avait surnommée la femme du globe.
16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Et oui, Ella Maillard qui s'est éteint également donc à Chandolin. Et maintenant Stéphane, nous allons vérifier si vous n'avez pas trop dit de bêtises avec une véritable spécialiste d'Ella Maillard.
Et oui, nous sommes en ligne avec Christelle Mouchard. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Vous êtes écrivain spécialisé dans l'aventure au féminin. Vous avez dirigé l'ouvrage « Elles ont conquis le monde, les grandes aventurières 1850-1950 » réédité chez Artaud Poche. Votre dernier livre, « L'aventurière de l'étoile », Jeanne Barret, passagère clandestine de l'expédition Bougainville, vient de paraître chez Talendier. Alors, est-ce que j'ai pas dit trop de bêtises sur Ella Maillard ?
Non, parfaitement. C'était un portrait d'une grande dame de l'aventure, effectivement.
Elle a inspiré d'autres femmes, n'est-ce pas ?
elle a inspiré d'autres femmes, mais il faut dire aussi qu'elle s'est, hissée sur les épaules de ses aînés, parce qu'elle s'est aussi servie des voyages, des exploits accomplis avant elle, sachant que ce qui est vraiment très particulier, qui fait d'elle vraiment une voyageuse unique, c'est qu'entre elle et les grandes voyageuses qui l'ont précédée, comme Alexandra Davinel ou Gertrude Bell, il y a eu ce grand séisme de la guerre qui a fait qu'on ne pouvait plus être les mêmes voyageurs après et avant.
Mais Christelle Mouchard, vous parlez d'elle comme d'une voyageuse. C'est plus une voyageuse qu'une aventurière ?
C'est les deux, non. C'est vraiment une aventurière, c'est plus qu'une voyageuse. C'est véritablement une aventurière parce qu'elle cherchait le danger, comme les aventurières d'ailleurs qui l'ont précédée.
Mais elle fuyait quoi alors ?
Qu'est-ce qu'elle fuyait ? Qu'est-ce qu'elle cherchait ? En fait, elle ne le savait pas elle-même. Elle s'est beaucoup interrogée sur le sujet. Elle dit elle-même qu'elle se sent comme une chose emportée par le vent. Et qu'en voyage, il s'agit de durer, de tuer une heure, puis une autre heure. C'est très sensible dans ses livres et ça en fait des œuvres vraiment particulières, très belles. On ne trouve pas de description géographique ou ethnographique du pays traversé. On y sent le pas du chameau, on y sent le mouvement des nuages. On a vraiment l'impression que c'est ça qui l'a fait avancer. Le mouvement des nuages, elle passe en glissant.
Restez avec nous, sentir le pas du chameau avec Christelle Mouchard, aujourd'hui dans Historiquement Vôtre.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre chaque après-midi avec Mathieu Noël. On vous raconte trois destins très différents et pourtant parallèles. Notre fil rouge aujourd'hui, les aventuriers d'avant Koh-Lanta. Mike Horn, Marco Polo et la Suissesse Ella Maillard.
Et nous sommes toujours avec Christelle Mouchard qui a dirigé l'ouvrage « Elles ont conquis le monde, les grandes aventurières 1850-1950 ». Christelle, est-ce qu'il y a une grande différence entre l'aventure au masculin et l'aventure au féminin ? Une aventurière femme, c'est quelque part encore plus impressionnant parce qu'elle prend plus de risques qu'un homme.
Alors, est-ce qu'elle prend plus de risques ? Ça, c'est une grosse question. Mmh. Les hommes ont eu très longtemps l'impression que les femmes prenaient énormément plus de risques. Mmh. Elles en prenaient tellement de risques qu'il ne fallait surtout pas qu'elles partent.
Ah, oui, voilà.
Or, il faut bien constater qu'elles partaient quand même. Et elles partaient dans des conditions qui étaient aussi difficiles que celles des hommes et qui aimaient ça. Hein, c'était le cas d'Ella Maillard, on peut citer aussi Alexandra Davinel et Gertrude Bell. C'est le goût du danger, c'est très important. Et je pense que ça, effectivement, ça, on peut dire que c'est la même caractéristique que pour les hommes.
Oui, mais pour les femmes, il y avait une notion, peut-être avant 1850, c'est que les aventurières, c'était une notion sulfureuse. Elles étaient considérées aussi comme des espionnes.
Exactement, c'est vrai. Il faut faire une petite parenthèse que le voyage et l'espionnage ont toujours fait bon ménage. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, déjà. Mais c'est vrai qu'il y a eu un phénomène qui s'est passé au 19e siècle, aux alentours de 1850, date à laquelle sont apparues des femmes qui se revendiquaient comme aventurières, et non pas des aventurières au sens sulfureux du terme, mais de véritables exploratrices. Mmh. Et ces femmes-là ont dû faire une double conquête. Une conquête qui est celle du voyage, de l'avance, des frontières interdites, etc. Et dès la conquête des préjugés sociaux. Il fallait qu'elle se présente d'une certaine manière. Et il fallait qu'elle se présente surtout comme des femmes, comme il faut, qui n'étaient pas des aventurières au mauvais sens du terme. Et donc ça donnait une image très caractéristique, qui est amusante, qui leur a beaucoup nui, parce que évidemment on les considérait comme des vieilles chippies. En fait, c'est elles-mêmes qui fabriquaient ce personnage. Hein. Il y a aussi une autre caractéristique qui pour gagner leur galon d'exploratrice, il a fallu qu'elles cachent tous les dangers qu'elle traversait. Hein, ça, c'est vraiment très net et on le sent encore chez elle.
C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se vanter.
Elles ne peuvent pas se vanter, exactement.
Le seul truc intéressant d'être aventurier, c'est ensuite de pouvoir se vanter en racontant les histoires.
Exactement. Exactement. Et c'est terrible parce qu'il y a certaines d'entre elles qui ont fait des livres à leur retour et le livre tombe des mains parce qu'elles ont caché tous les véritables risques qu'elles ont courus et les endroits où elles ont vraiment failli y passer. Il y en a une qui s'est cassé le dos au milieu de son expédition et qui est revenue sur un brancard en souffrant le martyre, etc. Elle ne l'a pas dit dans son livre. Il ne fallait pas que cela se sache.
Exactement. En tout cas, il y a surtout votre livre là, sur Jeanne Barret. Voilà une autre aventurière passionnante, la passagère clandestine de l'expédition Bougainville. C'est chez Talendier. Après, et puis, il y a aussi... vous avez écrit énormément de livres, et notamment Gertrude Bell, archéologue, aventurière, agent secret. Et puis donc, toutes ces... Elles ont conquis le monde. Les grandes aventurières 1850-1950.
Merci beaucoup, Christelle Mouchard, d'avoir été avec nous en ligne aujourd'hui sur Europe 1.
Merci d'avoir parlé d'Ella Maillard.
Europe 1.
À l'issue de ce portrait d'Ella Maillard, vous comprenez enfin, Stéphane, le sens du dicton suisse. Il n'y en a point comme nous.
Il n'y en avait point comme elle, ça c'est sûr. À présent, dans Historiquement Vôtre, pourquoi le bœuf Stroganoff s'appelle-t-il ainsi? Et la poire Belle Hélène? Qu'était cette Belle Hélène? Était-elle si belle que ça? Les anecdotes souvent étonnantes sur l'origine des recettes, c'est dans Les Papis de la Nation avec Olivier Pouls.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement Vôtre.
Vous aimez vibrer devant une série Netflix? Vous aimez l'action, les intrigues, les retournements de situation de Game of Thrones? On a inventé mieux. Ça s'appelle l'histoire. La vraie qu'on vous raconte chaque après-midi, sans se la raconter, avec mon complice, Mathieu Noël.
Effectivement, Stéphane, et encore le mot complice est un peu faible pour décrire la formidable alchimie à l'œuvre dans notre duo, même si nous ne sommes pas fermés à l'idée du trouple. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour les amis, c'est vrai, à trois c'est mieux encore.
À trois c'est plus pour qui langage que vous, mais ça commence bien. Alors chaque jour, Olivier, vous nous racontez l'histoire d'un produit, d'une recette, parfois même d'un ustensile.
Auriez-vous un petit creux, par exemple, à cette heure-ci?
C'est l'heure du goûter.
C'est l'heure du goûter.
On est entre le goûter et l'apéro. Et c'est le goûtero.
Voilà,
c'est un nouveau concept qu'on pourrait inventer.
Alors, je vous apportais un petit truc, un produit qui est connu depuis la nuit des temps dans le monde, mais qu'en France, en Europe, on a découvert beaucoup plus tard, au XVIe siècle. Tenez, regardez. Mangez donc ça pendant que je vous raconte.
Oh, il nous a apporté du chocolat, Stéphane. Et du chocolat bio.
Et je vous ai apporté du chocolat. Eh bien oui, parce que le chocolat, évidemment, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, on le connaît depuis la nuit. Mais il est là pour ça, mon cher Mathieu. Faites-vous plaisir. On le connaît depuis la nuit des temps. Mais chez nous, il n'arrive que beaucoup plus tard et on le doit, évidemment, aux explorateurs. Alors, une petite anecdote amusante, c'est que le premier Européen, probablement, qui a goûté du chocolat, c'est Christophe Colomb.
Ah, non,
c'est Christophe Colomb.
Oui, non, ça n'avait pas de sens ce que je dis.
Et apparemment, il en aurait dégusté en 1502, alors c'est précis, hein, lors de son quatrième voyage qui l'emmène en Guadeloupe. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, il trouve ça vraiment pas bon
mais
du tout.
Mais c'est très amer, une fève
mais
de
oui,
cacao.
Parce qu'à l'époque, on ne mange pas le chocolat tel que vous
mais
l'avez
oui,
là,
la...
déjà préparé,
on le mange
sucré.
À 100% de cacao.
Alors on ne le mange pas, on le boit.
On le boit.
C'est
on le boit,
une boisson uniquement, une décoction de fèves de cacao extrêmement amère, dans laquelle on met des épices et éventuellement un petit peu de sucre de canne quand on en a pour arrondir tout ça. Mais franchement, ce n'est pas très bon. Et d'ailleurs, l'anecdote est assez marrante, parce que Christophe Colomb, d'ailleurs, on lui donne des fèves de cacao avant qu'il ne reparte. Il repart sur son bateau.
Qu'est-ce que je foute avec ça?
Et, mais il regarde ça et en fait, il comprend pas ce que c'est. Il croit que c'est des crottes d'animaux, des crottes de chèvre, et il balance tout par-dessus bord.
Non.
Et il ne revient pas avec les fèves de cacao. Il faudra attendre un peu plus tard un autre explorateur, Hernán Cortés, qui est un peu plus avisé, lui, et en 1528, il ramène les premières fèves de cacao en Europe, en Espagne.
Et alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ces fèves de cacao? Si on ne sait
pas... Eh bien, des boissons, en un premier temps. Des boissons, alors, c'est réservé, évidemment, à la famille royale.
La famille royale, c'était de l'or, et on le buvait avec de l'eau. C'est-à-dire qu'on le faisait
absolument.
À l'eau. Et bon, aujourd'hui, on met du lait pour faire du cacao.
Eh bien, c'est une erreur. Quand vous avez un très bon cacao, il faut faire un chocolat chaud à l'eau, et pas au lait.
On ne peut pas dire n'importe quoi dans cette émission. Je suis suisse. Vous me dites là qu'aujourd'hui en 2020,
oui.
Avec les cacaos dont on dispose, s'il vous plaît, un bon chocolat chaud.
Et avec de l'eau. Oui,
avec de l'eau et non pas du lait.
Oui, mais bien une belle sûr. Eau des
Écoutez,
montagnes
quitte,
de la Suisse.
Je quitte ce studio. Merci.
Non.
Merci Stéphane.
Non, parce
merci
que
c'est la recette de l'époque,
exactement.
Pas d'origine.
Mais
d'accord,
mais
à l'époque, on faisait n'importe quoi.
Non, c'est très bon, non. J'ai goûté. Moi.
Bah, c'est... Et puis surtout, le lait, il arrondit un peu, il masque le goût puissant du vrai bon cacao. Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est que les fèves de cacao, aujourd'hui, elles sont traitées. Le cacao que vous achetez, le cacao en poudre, il est traité, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Il était encore beaucoup, beaucoup plus amer que ça. D'ailleurs, très, très souvent, c'est même jugé comme un produit médicinal. Hein. Les premiers cacaos seront vendus plutôt dans les pharmacies.
C'est quoi les vertus du
de
cacao
Beauve, Monsieur de Beauve, qui a donné la chocolaterie de Beauve Gallet, par exemple, et bien, c'était le pharmacien voilà. De Marie-Antoinette. Et il lui faisait il lui donnait du chocolat au sirop d'Alep ou à l'amande.
Ça lui a pas trop réussi, à Marie-Antoinette.
Non, mais parce qu'elle avait des maux de tête avant qu'on la lui coupe.
Ça a résolu le problème de manière plus définitive.
Non, mais écoutez
Stéphane,
excusez-moi.
excusez-moi, je retourne le couteau dans la plaie.
On prêtait aussi des vertus un peu aphrodisiaques au cacaoïme. En fait, c'était plutôt,
voilà, d'où
plutôt
la connaissance, d'où la grande compétence de Stéphane sur le sujet.
C'était plutôt dû aux épices qu'on y mettait dedans qu'au cacao en réalité.
Chocolat au gingembre, allez-y, vous allez voir.
Et tout ce qui va changer la révolution du chocolat, c'est le 19e siècle et la révolution industrielle, parce que là, on apprend en fait à travailler le cacao, et notamment on développe la technique de séparation du cacao pur et du beurre de cacao. Et pour faire du chocolat tel que vous l'avez là, il faut du cacao, il faut du beurre de cacao et du sucre. Et ensuite, évidemment, on ajuste les pourcentages, etc. Donc la tablette de chocolat, le chocolat dur tel qu'on le manque, ça apparaît 19e. Au 19e siècle.
Merci beaucoup, mon cher Olivier Poul, pour cette histoire du chocolat. Et vous n'avez pas encore mangé votre petit carré,
Stéphane ? Non, mais parce que je parle encore.
Oui, mais moi, je vous le piquais pendant la pub. Oh oui !
Europe 1.
Revenons maintenant à nos héros du jour après Marco Polo et Ella Maillard. Mathieu, vous allez nous brosser le portrait d'un autre aventurier qui n'a pas attendu Koh-Lanta pour courir le vaste monde.
Oui, Stéphane, aujourd'hui dans 99% vrai, la chronique où je raconte la vie d'une personnalité avec 99% de vraies infos et 1% de n'importe quoi, je vais vous parler de Mike Horn, le seul type que je connais qui peut réparer un bimoteur avec un cure-dent. Alors après, c'est quelqu'un qui a son petit caractère et son franc-parler. Une fois, j'ai tenté de l'inviter dans une émission de type humoristique.
Je suis pas venu ici pour qu'on se fasse des toutouches sous la douche, tas de cons.
Je l'ai pas réinvité une deuxième fois.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui va vous faire aimer l'histoire à travers chaque jour trois personnages au destin surprenant. Ils ont chaque fois un point commun. Aujourd'hui, c'est le goût de l'aventure. On a évoqué donc Marco Polo, Ella Maillard. Tout ce qu'on vous a raconté jusqu'à présent est à 100% vrai. Mais voilà. C'est le moment où vraiment ça coince, c'est la chronique de Mathieu Noël qui s'intitule, afin de nous éviter évidemment bien des procès en diffamation, le 99% vrai.
Oui Stéphane, mais au fond, qu'est-ce qu'un petit pourcent dans une vie aussi riche que celle de notre troisième personnage du jour, troisième aventurier d'avant Koh-Lanta, le vigoureux et tonique Mike Horn, aussi connu sous le surnom flatteur de Steven Seagal en vrai.
Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel.
Oui Stéphane, avant de me pencher sur le palmarès de Mike Horn, j'étais plutôt assez fier de ma performance cet été en Ardèche sur le parcours médium confirmé de l'acrobranche de Grozon-sur-Isère. Surtout que je n'avais pas perdu mes moyens au moment de me lancer dans la grande tyrolienne.
Allez, vas-y.
Je peux pas.
Laisse-toi aller.
Il va, mais j'ai peur.
Évidemment, en découvrant les performances de Mike Horn, j'ai un peu relativisé mon exploit. Mike Horn est né il y a 54 ans en Afrique du Sud. Le mot hyperactif n'est pas encore à la mode chez les pédopsychiatres, mais on a clairement affaire à un enfant qui ne tient pas en place. Rugby, cricket, athlétisme, tennis, le petit Horn se dépense à tout va. À l'âge de 8 ans, il parcourt 300 km à vélo pour aller rendre visite à son tonton. Ce que vous imaginez, Stéphane, qu'est-ce que vous diriez si votre oncle vous demandait de lui rendre visite à 300 bornes de Paris ?
Uber, c'est plus pratique et puis au moins on vous tient la porte.
Bien sûr, bien sûr.
Je lui demanderais de déménager.
Plus simple. Non, contrairement à ce doudingue de Mike Horn qui, lui, en 90, décide de quitter l'Afrique du Sud, à cette époque, seuls trois pays accueillent les Sud-Africains sans visa. Israël, la mer morte, le Saint-Sépulcre, les plages endiablées de Tel Aviv. L'Angleterre, l'Europe, le football, ses pubs. Et puis sinon, y a aussi la Suisse. Mike Horn a préféré s'en remettre en une dangereuse roulette russe. Il arrive à l'aéroport et demande un billet pour l'un de ces trois pays. Le premier vol est un Johannesburg-Zurich. Déjà le goût de l'aventure, les dés sont jetés, il suivra les traces d'Ella Maillard. Ayant choisi la Suisse, il devient assez logiquement un couteau suisse. Il travaille dans des fermes, sur des pistes de ski, devient garde-rivière, barman, bûcheron, vendangeur. Il se lance également dans tous les sports en eau vive que vous adorez, Stéphane. Rafting, hydrospeed, canyoning. Bref, il est un peu le chaînon manquant entre MacGyver et Popeye dans Les Bronzés. En 1984, décidant qu'il est temps de s'endurcir un peu, Mike Horn devient lieutenant dans les forces spéciales sud-africaines. Oui, j'avais pas la musique des gendarmes d'Afrique du Sud, alors je me suis dit Saint-Tropez, c'est quand même un peu le Sud. Là-bas, il est fidèle à lui-même, il n'épargne rien aux nouvelles recrues qui vont en baver sous ses ordres.
Vous allez sortir de cette chambre, prendre le couloir, aller jusqu'au placard. À l'intérieur, vous trouverez un balai, un seau, une serpillière et de la javel. Vous irez nettoyer les water-closettes de droite. Je veux qu'on puisse y faire un pique-nique. Compris ?
Une rigueur implacable en degré d'exigence qui vont lui être utiles par la suite. Car en 91, ça y est, Mike Horn se lance dans sa première véritable aventure, direction le Pérou. Pour une dégustation des grands crus péruviens en hôtel Relais Château comme vous l'année dernière, non.
Des chocolats ?
Non, 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 non. Pour descendre les Andes péruviennes en raft et en parapente, parce qu'en rafle tout seul, c'est pas drôle. En 95, il obtient le record du monde de descente de la plus haute chute d'eau avec un hydrospeed. L'hydrospeed, sport éminemment dangereux dont on sait que ceux qui le pratiquent mettent en grand danger leur dos.
Et leur bourse.
Et leur bourse aussi, Stéphane, c'est vrai. Heureusement, celles de Mike ressortiront intactes, ce qui lui permettra d'engendrer descendance. Deux filles qui deviendront d'ailleurs les plus jeunes enfants à faire un trek au pôle Nord accompagnées de leurs parents. En 97, l'infatigable Mike part en direction du mont Missmi. Il marche pas moins de 600 km pour atteindre son sommet. 600 km, ça fait un peu long. Alors, il se répète les bases aux grandes dames de ses Sherpas.
Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe.
On marche, quoi.
Une fois en haut, il démarre sa descente. Et là, 171 jours plus tard, il atteint le Brésil. Son indice carbone est impeccable. Et il est le seul aventurier dans l'histoire à avoir fini un tel parcours. De juin 99 à 2000, il lance le projet Latitude Zéro, un tour du monde en suivant la ligne de l'équateur. Il parcourt 40 000 km sans moyen de transport motorisé. Il parle encore aujourd'hui avec beaucoup d'émotion de cet épisode épique qui est vraiment la clé de sa carrière d'aventurier.
Tu es dans une rivière où tu peux même pas chier dans l'eau parce qu'il y a des bactéries qui rentrent. C'est des choses intéressantes pour moi.
Ah Stéphane, c'est si joliment imagé. On a envie de se ruer au vieux campeur pour préparer une expérience. Expédition. La liste de ses exploits gonfle au même rythme que ses mollets. En 2002, par exemple, Mike Horn se lance dans le tour du monde par le cercle polaire, l'expédition Arctos. Il devient une véritable source d'inspiration à tel point qu'on fait appel à lui pour travailler avec l'équipe de foot allemande en tant que coach mental. Résultat, l'Allemagne gagne la Coupe du Monde. Mais après avoir coaché les meilleurs joueurs de foot, Mike revoit un peu à la baisse ses exigences en 2016 en acceptant de coacher Matt Pokora.
Tout le monde s'en fout.
Bah, sauf les fans de Matt Pokora. Stéphane, respectons-les. Ah, on ne sait jamais, il y en a peut-être qui aiment l'histoire. Qui sait ? Matt Pokora qui participe donc à la nouvelle émission de Mike Horn, À l'état sauvage, émission où globalement le sadique Mike essaye de paumer des stars dans la jungle. Peu ou prou, c'est ça. Alors, est-ce le hasard ou bien sa tête qui ne lui revient pas, ou encore la volonté de venger la mémoire de Claude François suite à l'album Reprise que venait de commettre Matt Pokora ? Pour rappel, probablement l'hypothèse la plus probable. Toujours est-il que Mike a été particulièrement dur avec ce pauvre Matt Pokora qui, 4 ans après, peine encore à s'en remettre.
Mon pantalon n'a jamais été sec de toute l'aventure.
Hyper médiatique, Mike Horn n'en oublie pas les expéditions, les vraies. Et parfois, les expéditions tournent mal. Vous en avez peut-être entendu parler en décembre dernier. Sûr. Après 87 jours de ski pour traverser l'Arctique, Mike Horn et son coéquipier Bård Husland sont piégés par la fonte des glaces. Les deux hommes et leur traîneau ont dérivé et ils se sont retrouvés à court de nourriture. C'est dans ce genre d'instant suspendu face à une possible issue fatale que certaines évidences s'imposent à nous.
Bon, imaginons que les secours viennent pas. Je dis que ça serait dommage de mourir sans profiter une dernière fois de nos sens.
Bård Husland ne l'a pas entendu comme ça. Aventurier du bout du monde, Mike Horn est aussi de bons conseils pour nos vies quotidiennes. Lors du confinement en mars dernier, il a partagé avec les internautes ses conseils pour vivre cet instant avec le plus de productivité possible. Alors écoutez bien Stéphane, en cas de seconde vague, j'ai pris quelques notes. Il nous demande de faire chaque jour 7 km de montée en tirant 3 pneus. On n'y pense pas. On n'y pense pas souvent, ça, Stéphane.
Il faut une bonne cage d'escalier, quand même.
Il faut une bonne cage d'escalier. Un moyen, selon lui, d'avoir un corps et des muscles et de frimer, tu m'étonnes. Quant au bricolage, en cas d'ennui, ceux qui ont confectionné un cendrier en terre cuite avec leur marmot peuvent éventuellement aller se faire voir. En 3 percées et un coup de chalumeau, Mike a construit un traîneau. En toute simplicité. Question aventure, Mike n'a pas dit son dernier mot. Il repart bientôt direction le pôle Nord pour collecter des données sur les baleines du cercle polaire arctique et l'impact de la crise du coronavirus sur ces mêmes cétacés. C'est aussi ça, Mike, un homme concerné par les problèmes de son temps. Avant de vous quitter, Mike a un conseil pour tous les Aoussiens qui sont encore en vacances.
Une fois que tu as enlevé tous tes vêtements, tu es cul nu, tu dois te mettre à l'ombre.
Oui, c'est plus prudent. Amis Aoussiens, j'espère que vous avez bien noté. Et c'est là qu'avec Stéphane, on regrette d'être des juilletistes.
Merci Mathieu.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Désagrégé, auteur d'une thèse sur les chevaliers paysans au lac de Paladru autour de l'an 1000, au pur novice, historiquement vôtre ambitionne de réunir tous ceux qui se passionnent pour l'histoire. Comment ? Eh bien par l'entremise d'un duo peut-être étonnant sur le papier, mais qui, pour Stéphane et moi, en tout cas, a très vite relevé de l'évidence.
Deux étrangers qui se rencontrent dans l'ascenseur déjà le désir monte.
C'est pourquoi, afin d'éviter tout débordement, nous privilégions l'escalier.
Oui, et puis en plus, ça permet de garder la ligne.
C'est mieux. Stéphane, aujourd'hui, nous avons évoqué les grands aventuriers de l'histoire, mais vous, vous êtes notre aventurier des mots. C'est l'heure de votre mot de la fin.
Absolument, cher Mathieu. Alors, après une semaine d'aimable collaboration avec vous, je ne voudrais pas tout gâcher en évoquant aujourd'hui un sujet peut-être douloureux pour vous.
Mon Dieu.
Mais vous ne le savez peut-être pas, mon surnom, c'est Bern le Hardy. Donc, je ne vais pas hésiter plus longtemps. Je me lance. Je voulais vous parler des belles-mères.
Ah, oui.
Pourquoi dit-on belle-mère, beau-fils, belle-fille ? Chez nos amis anglo-saxons, par exemple, vous le savez, Mathieu, grâce au site internet Interlope que vous fréquentez, on parle de « mother-in-law », ce qui signifie « mère » au nom de la loi. La belle-mère devenant ainsi la figure maternelle au regard de la loi en cas de remariage civilement. Dans l'Antiquité, la belle-mère était appelée marâtre.
Ce qui convenait
un
mieux.
Un terme beaucoup moins...
Enfin, je ne parle pas pour moi, non, je parle pour la plupart des gens.
À l'époque, c'était beaucoup moins péjoratif qu'aujourd'hui.
Bah ça n'est pas possible, parce que marâtre, ça sonne tellement mal que c'est forcément négatif.
Mais en fait, c'est issu du latin matrastra. Cette appellation va avoir de plus en plus mauvaise presse. Témoin la description donnée par le poète du XVIIe siècle, Antoine Furtière. Je cite « Marâtre, femme d'un second lit » qui maltraite les enfants d'un premier lit pour avantager les siens.
Quelle horreur, c'est Cendrillon.
Marâtre pour belle-mère, parâtre et filâtre pour beau-père et beau-fils. Le suffixe « âtre » va peu à peu disparaître au profit du préfixe « beau ». Mais attention, un beau qui désigne plutôt l'affection qu'un caractère esthétique, si vous voulez.
Un bon, alors, ça aurait pu être, voilà, le bon papa.
Exactement. Le beau était l'équivalent de cher lorsqu'on dit aujourd'hui cher monsieur, cher ami, etc. Au XIIIe siècle, d'ailleurs, quand Saint Louis s'adresse à son fils, il disait « mon bio-fils ». Au XIVe siècle, on emploie facilement le terme que vous avez relevé à l'instant de « bon père » ou de « bonne mère » pour désigner ses parents. Il est amusant de constater que la bru
est une...
Vous avez revu votre bru cet été ?
Ça fait longtemps qu'on ne me l'a pas demandé, ça, tiens.
C'est une expression toujours usitée, enfin, dans certains milieux.
Oui. Dans les salons, sous les ors des palais.
Non, je ne crois pas. Et pourtant, c'est un mot qui vient du 3e siècle par les Goths. Et oui, tout comme gendre.
On va faire un point là-dessus. On dit les Goths ou les Goths ? Moi, j'ai toujours dit Astérix et les Goths, parce que moi, ma culture des Goths s'arrête à Astérix.
Oui, moi, je dis, pour que plutôt que Goths, maintenant, je prononce toutes les lettres pour être sûr qu'on comprenne.
Mais tout à l'heure, vous avez prononcé Chandelin, vous l'avez prononcé Chandeline.
Je ne suis jamais allé à Chandelin.
D'accord, vous avez une petite excuse. Bon, oui. Là-bas. Donc, les Goths.
Ou les Goths, comme vous voulez. Enfin, vous savez, ces tribus qui venaient... Non. Tout comme gendre que l'on use encore, cela vient du latin guignere, qui signifie engendrer. Donc engendrer, gendre.
Ça se tient.
Quittons-nous avec un sourire et ce bon mot de Pierre Doris. Aux dernières étrennes, j'ai offert une chaise à ma belle-mère. Aux prochaines étrennes, je la ferai électrifier.
Oh, il était taquin ce Pierre Doris. Voilà, grâce à vous Stéphane, une fois de plus ce soir je me coucherai moins bête, ce qui, je vous le concède, n'était pas très difficile vu le point de départ.
Oh non, vous faites du mal.
Je m'autoflage.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Marco Polo et Ella Maillard, Mike Horn, ils étaient les aventuriers d'avant Koh-Lanta. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, vous laissant dans le même état paradoxal de ravissement et d'épuisement qu'une nuit d'amour pluriel sur la portion naturiste de la plage de Copacabana.
Ça reste entre nous, hein. Oui, non, parce que les gens sont pas obligés de savoir tout ça. Je veux dire que, sorti de son contexte, un doigt dans les fesses, ça peut être...
Mais oui, todo très bien. Ce qui se passe dans le studio Coluche reste dans le studio Coluche.
Et si vous avez malheureusement raté ce qui s'est passé, vous pouvez toujours vous rattraper demain avec les meilleurs moments de l'émission.
Et Dieu sait qu'ils sont
les
nombreux.
Les bons morceaux.
Les très bons morceaux sont nombreux. Rendez-vous donc demain à 16h pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.